Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute.
Bonjour Sandrine.
Hello Katia.
Bon alors, on l'enregistre en différé, on l'enregistre à distance.
À distance, on est confiné.
Ben oui, tout confiné. Alors aujourd'hui, on va parler de fashion, hein, parce que c'était les Fashion Week et elles étaient si vitales, n'est-ce pas, en cet automne-hiver 2021.
Ouais.
On va tenter de décoter les tendances de la mode du monde d'après.
Du monde d'après, de la saison d'après.
Oui, parce qu'en fait, tout change, mais rien ne change. Hein. C'est ça qu'on pourrait dire, n'est-ce pas? Cette saison encore, c'est au printemps que les Fashion Week automne-hiver ont défilé, ou plutôt ont envahi les podiums virtuels, avant renfort de vidéos créées pour nous, donner à voir des collections où l'on pouvait enfin croiser des physiques de toutes dimensions, de tout genre, de toutes couleurs, voir des hybrides non identifiés avec des vêtements en grande partie recyclés, ou devrait-on dire upcyclés si l'on en croit les grandes maisons et les créateurs émergents, parce que c'est bien là la tendance, n'est-ce pas Sandrine?
Complètement, complètement. Et quoi d'autre? Vas-y, vas-y, continue.
Ben oui, le 10 mars, alors que s'achevaient les Fashion Week automne-hiver 21-22, c'est-à-dire 2021-2022, tous les bureaux de tendance et les magazines terminaient, toi incluse, n'est-ce pas Sandrine, par un décryptage de près de 230 collections pour ne retenir que l'essentiel des tendances portables et désirables, quel que soit le style, l'âge ou le genre. Alors Sandrine, comment se porte la mode? Quel est ton ressenti global de ces Fashion Week automne-hiver 21-22?
Bah écoute, vu depuis ou derrière l'écran de mon ordinateur en Zoom ou en version digitale, je dirais que la mode, ou plutôt la créativité, se porte assez bien. Et c'est une saison figitale plutôt réussie, malgré la morosité ambiante et le manque de repères dans ce monde d'après. Et ce qu'il y a de vraiment réjouissant pour moi, c'est de voir que les jeunes créateurs indés ou même ceux au sein des grandes maisons ont inscrit au cahier des charges la nécessité de rendre visible, voire de proposer dans leur collection des solutions aux problématiques sociétales et évidemment environnementales, de questionner le recyclage, l'éthique, l'inclusivité, le genre, les inégalités sociales et culturelles, mais aussi le féminisme. On continue sur cette lancée, on creuse le sillon. Mon étonnement quand même, c'était de voir des marques et des créateurs qui disaient la saison précédente vouloir faire moins mais mieux, mais qui présentaient toujours le même nombre pléthorique de pièces. Ça, c'était un petit peu décevant. Mais sinon, je retiens, et avant de rentrer avec toi dans le décryptage des tendances fortes, que loin vraiment de manquer d'idées, les créateurs ont surexploité, au-delà du concept de gender free ou no gender, le côté gender fluide, ou cette idée que chacun au travers de leur collection devait se sentir libre d'être aussi authentique que possible. Donc les marques sont vraiment parvenues à maintenir une unité dans la diversité sans rien perdre de leur singularité. Et pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre de la saison. Unité dans la diversité.
Ah, ça, c'est bien, c'est notable. Et puis, en matière de créativité, c'est peut-être aussi parce que quand on ne fait rien, quand on fait moins de choses, moins de voyages, moins de soirées, et bien on se disperse moins, en fait, et on a envie de créer encore et toujours.
Oui, on a envie, c'est justement dans cette contrainte qu'on a ce regain de créativité. Et même si on parle d'un retour au minimalisme qui est déjà presque survendu, avec cette idée d'un vestiaire, par exemple, essentialiste, eh bien, on est plutôt dans cette idée d'un essentialisme qui est complètement détourné au profit d'une interprétation avec des basiques twistées, rajeunies, pour les adapter à des générations qui se jouent volontiers des codes, des statuts, et qui veulent des futurs intemporels, mais plus vivants, je dirais. Justement, plus créatif.
Pas question de ressembler à la bourgeoise ou de s'habiller comme Madame Pompidou.
Écoute, c'est ce qu'on a vu un petit peu ces derniers temps, c'est vrai, avec Slimane pour Céline. Mais là, on a vu que les créateurs étaient vraiment trop heureux d'aller piocher dans les archives, mais sans contrainte justement d'époque, de hiérarchie, pour se les réapproprier à la manière de ces nouvelles générations plus audacieuses, plus enclines aussi à la réinvention et au mélange de styles. Leur motto, ce serait « Back to basic is okay, but only if it's not boring », parce qu'on n'a pas du tout envie de s'ennuyer en fait. Et comme je te le disais, même Slimane pour Céline, il s'est pas contenté de faire un copier-coller de la bourgeoise. Il revient à ce qu'il aime, c'est-à-dire le grunge dégingandé, le style college des années 90 de la East Coast, et il shake. Il fait vraiment un effet shaker. Je dirais, personnellement, je l'aime beaucoup, donc je dirais qu'il réussit bien à juxtaposer des grands classiques qu'on n'aurait pas justement osé mélanger. Et idem pour le duo Miuccia Prada, Raf Simons, qui est maintenant le nouveau co-DA de Prada avec Miuccia. Ah ouais, et eux, je trouve qu'ils sont revenus vraiment avec brio sur la collection de Prada 1996, vraiment aller regarder dans les archives, pour réinterpréter les pièces maîtresses avec une capacité, je dirais la capacité synthétique et symétrique de Raf Simons, de renverser les codes qu'on connaît bien chez Prada, de mauvais goût intellectualisé. Et puis on l'a traité il n'y a pas longtemps dans le Marais Mood.
Courage
qui réussit au travers de l'esprit libre de Nicola Di Felice, qui est le directeur artistique, qui réussit à adapter des pièces originales 60s, mais avec, je dirais, au vrai sens du terme streetwear, c'est-à-dire que c'est des pièces à vivre faciles en milieu urbain. Il utilise les codes d'un rétrofuturisme qui est adapté au présent, qui est fluide, qui est structuré, et vraiment destiné à ces générations plus jeunes qui sont fiers d'arborer des pièces iconiques, mais surtout pas passéistes.
Mm-hmm. Alors, surtout pas passéistes, ok, le mot qui fait frémir et qui met au défi la majorité des marques, et créateurs d'aujourd'hui qui doivent rivaliser d'originalité pour donner à leur collection ce caractère intemporel, incontournable, sans venir en nez avec un je ne sais quoi de twist, comme tu dirais.
C'est ça, et d'autant que leur mission, c'est d'inventer des vêtements conçus pour durer, d'où la difficulté.
Ben oui, parce qu'ils doivent ralentir un système de mode frénétique, et pourtant on n'a pas l'impression, hein, quand on regarde les défilés qui, tu l'as dit, avaient un nombre de pièces considérable.
Oui, et c'est encore difficile à matérialiser, parce que justement le nombre de collections qui devrait passer de 6 voire 8 par an à 2 à 4 par an, difficile aujourd'hui d'y croire. Certains le font, d'autres le font, mais, ou alors je dirais plutôt font semblant en réduisant le nombre de pièces des collections, que ce soit les resorts ou les pre-fall, celles de printemps et celles d'automne, ou ils produisent ce qu'ils appellent des collections capsules, c'est pas mieux.
Oui. Donc là, c'est tout le paradoxe, hein, car comment faire du chiffre, c'est ça quand même, la mode, c'est aussi toute une partie commerciale, en vendant moins et plus cher. On parle d'années qui viennent, qui seraient des années folles. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et celui qui semble y parvenir, c'est Armani, tu me l'as expliqué, qui réinvente une silhouette reconnaissable, jamais tout à fait la même, mais quand même, c'est un vêtement idéal pour traverser les saisons, non?
Oui, complètement. C'est un pionnier dont le signe distinctif est de créer, de décliner une variation autour du même thème, mais peu y parviennent aujourd'hui, surtout comme tu l'as dit, si tu veux faire du chiffre, parce que quand même l'idée c'est de vendre. Et l'idée c'est plutôt de s'inspirer de sa stratégie, parce que tout le monde n'est pas Armani et tout le monde n'aime pas le style Armani, mais lui a réussi à réduire le nombre de ses collections, de ses lignes. Il est vraiment dans la traçabilité, dans le recyclage, la réutilisation des stocks et des tissus dormants, c'est-à-dire des tissus non utilisés, des tissus des saisons précédentes aussi qui deviennent des millésimés, tout comme le font des designers comme Stella McCartney, Vivienne Westwood, plus jeune Marine Serre, plus emblématique Margaret Howell. D'ailleurs, il y a une boutique Margaret Howell aussi dans le Marais qui est plutôt sympa.
Ah oui?
Ouais. Je crois qu'elle est je crois qu'elle est rue de Bellem, mais je suis pas sûre. En tout cas, elle est au cœur du Marais. Donc voilà. Et à suivre. Et le principe, c'est vraiment de produire moins, de créer des collections aussi qui traversent les saisons ou que l'on peut mélanger, qu'on appelle intersaisonnières, des pièces signatures que l'on peut reconduire, parce que l'idée, c'est de rationaliser, de réutiliser, de compenser, tout en se revendiquant d'une mode éclairée, décomplexée, activiste, même radicale. Et radical, quand je dis radical, c'est pas forcément dans le style, mais c'est dans le traitement du concept au produit fini sur toute la chaîne de production, du sourcing à la distribution.
Ah, j'adore, j'attendais ce moment parce que c'est vrai, parfois on tombe amoureux d'une pièce, un manteau qu'on aimerait retrouver quelques années plus tard, et puis on vous regarde comme si vous disiez une bêtise en disant mais quoi, ce manteau était parfait, la coupe était géniale, ouais. Ça m'allait comme un gant, et on ne le retrouve plus, tout ça pour inventer quelque chose de plus court, de plus long, ou de légèrement différent, mais qui ne fait pas la même chose.
Mais c'est ça, c'est comme ton manteau Gucci dont tu me parles, voilà, que tu regrettes.
Déserté, tout le temps en laine, parfaitement léger, parfaitement agréable, qu'on peut mettre sans une veste ou avec une veste, est génial en dessous, je veux dire, et voilà, il n'existe plus.
Il n'existe plus et c'est bon. L'avantage, c'est que justement, des pièces iconiques comme ça ont tendance à revenir et même à être retravaillées toujours, mais toujours sur la même base. Et ce que je retiens aussi, justement, c'est cette idée de minimalisme avec une tendance qui se distingue et qui est tout à la fois, je pense à ça par rapport à Gucci. C'est une tendance importante parce que même ce minimalisme, il est à la fois flamboyant et un peu casual, un peu effortless.
Tu vois, c'est avec... tout l'esprit de la parisienne, c'est comme ça qu'on caractérise la parisienne.
Oui, la nouvelle parisienne avec une silhouette qui est plus architecturée, avec des volumes amplifiés, des superpositions qui apportent de la souplesse à l'allure. Et on l'a vu justement beaucoup, ces silhouettes qui ont foulé les podiums virtuels, qui ont cette élégance à la fois féminine et masculine, avec beaucoup d'ambiguïté dans l'allure, avec des tailleurs un peu XL, des costumes structurés. Mais revient beaucoup cette notion de confort et une allure masculine assumée et pas trop de, ou je dirais pas trop d'over sophistication.
Ah bah oui, si on adopte la garde-robe des hommes, c'est pour que ça soit fluide, comme tu dis, pour que ça soit élégant et pour qu'on ait à le twister juste avec le talon, juste avec un joli tag, juste avec un joli body en dessous, parce que en fait c'est ça, les hommes ont la chance d'avoir un uniforme et ça permet de passer partout.
C'est ça. Et en parlant d'uniforme, justement, donc comme je te le dis souvent, c'est que une tendance a forcément son antidote, et bien depuis Depuis la sortie depuis le pseudo déconfinement, reconfinement non enfermé, eh bien on voit que les générations un peu plus âgées, les générations X et Y, parce que pour les générations Z, c'est sans problème, ils le font naturellement, elles ont une furieuse envie de briller, de sortir du vestiaire de crise pour mieux le conjuguer. 1, 2, 3, pour mieux conjurer les vêtements trop moelleux, voire mous, qui continueront quand même de nous envahir la saison prochaine, avec une envie de... Ouais, je sais, toi qui aimes le glitter, la vision un peu fantasmée des clubs mythiques.
Oui, moi c'est le club 54, Diana Ross.
Ah, mais à fond, mais j'aime tellement. Et bien justement, il y a ce désir aussi des clubs mythiques qui, à défaut d'être remplacés par des boîtes de nuit qui sont fermées, donc justement, on essaye de retrouver cette flamboyance, mais plus souple, je dirais.
Ça tombe bien, je viens de m'acheter une paire de boots dorées.
Oh, à fond.
Je suis en train de le regretter, mais...
Non, surtout ne regrette pas, parce que c'est une tendance forte de l'hiver prochain, la boots dorée, sous toutes ses formes.
Bon, alors, en parlant de vision fantasmatique et d'imaginaire qui ont besoin d'être alimentés de silhouettes rêvées, même pour danser dans son salon, on dirait que pour pallier à l'absence des shows IRL et Noël Life, les marques ont rivalisé des rentabilités pour nous transporter dans des mises en scène qui répondent aussi à la créativité et que l'on voit sur Instagram. Mais les marques se sont rattrapées là, ça fait plaisir en fait.
Ouais, complètement, et c'est peu de le dire, on a vu une rafale de courts-métrages dignes de films hollywoodiens, comme celui de Chanel qui fait revivre le mythique Club Castel.
Très chouette. Pour l'instant, ils étaient très très peu dans le juste, hein, avec ce dîner là, avec toutes leurs muses qui étaient ratées autour d'une table. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Ouais.
Là, je trouve que ce film-là était très chouette sur Castel.
Ouais. Il donnait vraiment envie, justement, même si tu ne sais pas trop quand est-ce que tu vas mettre la Moon Boots, là, ça donnait envie. On en parle tout à l'heure de cette Moon Boots. Dior aussi, avec son film Mystico ensorcelant.
Il est fantastique.
Ouais, complètement. Et aussi les podiums aquatiques de Maisie Whelan, les défilés en réalité augmentée de Kaité, la version figitale néo-nostalgique et old school de Jonathan Anderson pour Loewe. J'aime énormément ce qu'il fait. Il est toujours à contre-courant avec ce kit qui contenait un journal papier intitulé Show in the News. Le Figital in Real Life en décalé avec les défilés en extérieur de Ecos Lata, qui est une jeune marque à suivre. Même encore une fois, Courrèges. Et puis plus spectaculaire, Balmain avec ses aviatrices. J'ai bien aimé aussi Coperni, où les invités était dans des voitures façon drive-in, plus inattendu.
Ah, j'ai pas vu celui-là.
Ah, mais tout est visible. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut voir ça en boucle sur Internet et sur YouTube.
Oui, il n'y a pas de front row, il n'y a pas de première place assise. Oui, c'est...
Ça, c'est super. C'est... Ouais. Et justement, on peut même voir les mises en scène grandioses de Fendi, la première collection de Kim Jones pour Fendi, ou encore Prada, qui avait créé un événement post-défilé et en invitant à travers un talk virtuel un parterre de personnalités influentes de tous horizons créatifs, de Marc Jacobs à des actrices, etc., pour redéfinir ce qui fait l'essence créative de Prada. Beaucoup de danse aussi, de la danse chez Hermès, chez Dries Van Houten, chez Kenzo. C'est très beau, très très beau. Et puis aussi, en parlant de créativité, des invitations de dingue, encore plus folle que jamais. Toujours Prada avec une boîte en fausse fourrure remplie de chocolat et de bonbons, une playlist sur cassette d'Isabelle Marant, enfin plein de choses qui sont à retenir.
Ouais, un journal chez Loewe.
Et là, là, que retenir de tout ça, sinon une approche plus pratique, plus proche aussi de leur communauté pour les marques, des moyens de mettre en avant des artistes créatifs et des façons de montrer vraiment inédites, des formats qui dépassent le simple catwalk, show, le défilé, auquel justement on n'est pas tous invités, et qui invite justement, qui nous invite tous à la réflexion post- dans la vraie vie, qui deviendra certainement durable et non plus marginalisée du fait des contraintes.
Ben oui, alors là, on a ouvert la boîte de Pandore. Hein. À t'entendre, on dirait que toutes les marques se sont donné les moyens de surprendre, voire de magnétiser un public professionnel et d'acheteurs potentiels, de fans acquis ou en devenir, ils sont prêts à partager et à repartager pour rendre des collections virales. En fait, ils se sont un peu piqués de ressembler à des influenceurs, toutes ces marques-là, non ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, à travers leur, leur manière de communiquer, ils n'ont plus besoin de, d'influenceurs, mais ce sont devenus de vrais influenceurs, effectivement, et qui sont suivis
c'est
directement.
Pour une marque.
Ouais, c'est bon, c'est un petit peu le rêve, effectivement. Et puis c'est aussi un moyen pour les créateurs et les marques qui étaient un peu en retrait, voire qui avaient de gros retards en matière de digitalisation, de s'adapter à ce monde en mouvement perpétuel et d'interagir avec plusieurs réalités. Donc là, on pourra même bientôt revenir à ce, je sais pas si tu te souviens, de Second Life, où on avait un avatar.
Oui.
Voilà, et qui là va devenir complètement mainstream, et puis on pourra, ou on devra payer pour habiller son avatar. Donc c'est, voilà quoi.
Mon Dieu.
Ah mais ouais, carrément. Donc c'est aussi pour les marques le moyen de matérialiser des tendances qui s'appliquent plus facilement à tous les styles aussi, tous les genres, toutes les morphologies, parce que ça va dépendre de nos avatars.
Mm-hmm. Et puis surtout, c'est très tentant d'avoir, d'être quelqu'un de très timide, très réservé dans la vie et d'avoir envie de faire des folies vestimentaires.
Ah mais de dingue. Et là, on pourra se le permettre justement à travers le Second Life ou In Real Life BIS ou 2.0, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler.
Alors dis-nous, quelles sont les 5 tendances incontournables? Est-ce que tu pourrais nous proposer un top 10 de pièces, de détails, de couleurs qui pourraient donner le ton de la saison prochaine?
Oui. Alors pour ce qui est des tendances, de manière générale, on a vu beaucoup celle du ski wear.
Ouais,
à fond, tout ce sport d'hiver.
Ça nous a tellement manqué les sports d'hiver que ça y est.
Alors écoute, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais on l'a vu même chez Chanel, chez Castel, les filles étaient se croyaient au sport d'hiver. Donc tous au sport d'hiver. Et puis on l'a vu aussi chez Miu Miu. Avec des moon boots et en version nuisette dans la neige. ouais, mais là, je suis pas sûre qu'on tienne le coup.
C'est plaisir à peine, hein, oui.
Hein, voilà. On veut du matelassé, du rembourrage XL, des nylons soyeux qu'on a vu aussi pas mal, justement, toujours dans cette tendance à outdoor chez Vuitton. De la fausse fourrure, ours brun ou ours châtain. Toujours chez Chanel, mais aussi chez Balenciaga, chez Prada, chez Port 1961 aussi. Et puis, on va décliner cette tendance pour rester dans les sports d'hiver, toujours avec le hiking chic, le outdoor qui se poursuivent. Ça, c'est une très grosse tendance.
Qu'est-ce que c'est que le hiking ?
Le hiking, c'est tout ce qui est un petit peu sport de grimpe, de varap, de montagne, un peu d'escalade, ou en tout cas, tout ce qui se pratique au grand air comme l'outdoor. On a vu même Gucci et sa collaboration avec North Face, Moncler qui crée toujours des super collaborations avec des créas. Une autre tendance forte, c'est l'allure néo-60, néo-60s, avec le retour des mods, comme on l'a vu, je ne sais pas, encore une fois, on n'est pas sponsorisé par Courrèges, même si on aimerait bien. Mais
ouais. C'est chouette. Et puis d'ailleurs, moi, je suis très intéressée par leurs petites vestes très courtes, en vernis, chemise en cuir vernis. Hein. S'ils veulent, ils peuvent m'en envoyer une. Hein.
Ah ouais, ouais. Et moi, leur manteau en cuir aussi, ça me plaît bien. Hein, voilà.
Bon, ça n'arrivera pas. Alors,
bah, écoute, voilà. On se fantasme dans des silhouettes affûtées, monochromes, épurées. Versace, mm-hmm. elle l'a fait aussi très bien, ce retour aux modes. Vuitton, mais avec une touche plus rétro-futuriste, 60s. On a aussi ce prolongement de cette tendance rétro-futuriste jusqu'à Bienvenue sur Mars, avec mm-hmm. des looks...
totalement d'actualité.
Ah mais carrément, avec des looks, mais plus glitter, plus extravagant de ça. Et donc, sinon, qu'est-ce qu'on a comme grosse tendance? On a en trois, je dirais, la tendance extravagante, sa fashion night out, à porter deux jours, puisque la nuit ou le soir, on ne peut plus sortir. Et donc, on se retrouve avec l'allure club, tu l'as dit, 54, le club 54, mm-hmm. mélangé aux années 90.
Wow.
Ah ouais.
Quand les supermodèles rencontrent Diana Ross au club 54, quoi.
Ah mais ouais, et tout ça mixé dans la silhouette Isabelle Marant, toujours aussi magnétique pour moi. Moi, j'ai vraiment aimé cette collection d'Isabelle Marant. Une autre, pour te faire un top 5, c'est le knitwear, la silhouette intégralement enroulé dans de la maille moelleuse. Donc c'est magnifique, c'est des longs pulls robes qui foulent la cheville, que ce soit chez Chloé, chez Altuzzara, chez Sander.
Jill Sander.
Et puis toujours le masculin féminin, on l'a dit tout à l'heure, avec ses costumes au volume affirmé, auquel s'ajoute l'army wear, hein, que j'adore, toujours le côté armé, version amplifiée comme chez Simone Rocha.
D'accord. Et les couleurs, alors, qu'est-ce que Pantone nous a dessiné, nous prescrit?
Alors, si on écoute Pantone, on va dans le jaune à fond. Donc, tous les jaunes.
J'adore.
Ouais. Les jaunes jusqu'à l'or, le jaune d'or. Mais moi, j'aime bien aussi le lilas. Le lilas glacé de la tête aux pieds. Le rouge flamboyant, alors moi c'est vraiment pas mon truc et je ne comprends pas pourquoi tous les créateurs, bah, peut-être parce qu'ils ont des stocks de rouge et il faut y aller.
Mais parce que c'est la nuit le rouge.
Ah ouais, non mais là le rouge de la tête aux pieds c'est juste très 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 difficile à porter dans la vraie vie. Moi je préfère justement le revival toutes les saisons des couleurs primaires que tu vas mixer. Tu peux y aller sur du monochrome, mais tu vas plutôt les mixer comme un orange, un rouge, un bleu ou un jaune et un vert, comme en combo, comme chez Kenzo par exemple, et sur lesquels on peut vraiment jouer avec les textures, les surfaces. Le rose, évidemment, moi je suis une fan du rose bubblegum.
Mais quel rose? Rose bonbon? Quel rose?
Le rose bubblegum, alors soit un vrai bubblegum, soit un bubblegum glacé comme chez Nina Ricci, qui était très très jolie, et puis même tous les pastels, on continue les pastels glacés comme chez Miu Miu, et puis les éternels noirs blancs comme chez Valentino, et pour ceux qui aiment les classiques, bien sûr, on ne perd pas de vue le caramel gris noir, en revanche beaucoup moins de marine.
Ah, de tout ça, c'est des marines que j'aime.
Ben ouais, mais le marine, tu pourras toujours le porter comme un basique, mais c'est moins ce qu'on a vu sur les défilés cette saison.
Bon, et tu nous as parlé de l'effet night out de jour, ça donne quoi? Ça fait quoi et c'est chez qui?
Ça donne de l'argent. Alors, à part les boots en or... on va aller vers de l'argent chez Vuitton, chez Chanel, chez Rabanne, du glitter, mais du glitter à fond, surtout sur de la chaussure compensée, comme chez Dries Van Noten, chez Chanel, chez Rick Owens, chez Stella McCartney, la Boots Prada aussi qui est impressionnante, et puis les looks Isabelle Marant en glitter ou en version rose.
Oui, j'ai vu des choses qui ressemblaient un peu à des homes de cavaliers, comment dire, des... Comment appelle-t-on ça? Des homes H-A-U-M-E...
Mince, j'ai pas le...
Oui, voilà.
J'ai pas l'expression.
Ouais. Quelle que soit la tendance, qu'est-ce qu'on va porter? Quelles sont les pièces maîtresses qui vont nous faire forcément envie, qui vont changer un peu la donne?
Alors, on commence par les pièces du dessus. Donc, j'ai pensé à toi pour le manteau. Manteau en lainage, mais celui-là, on va le vouloir à carreaux ou matelassé. Donc, ça veut dire aussi matelassé, ça veut dire de la doudoune type duvet, mais du matelassage partout. Le blouson outdoor un peu tech. On continue de voir le Bombers XXL. Les volumes super enveloppants, donc beaucoup de matelassé. Un très bel exemple, c'est la collection Raf Simons. Mais en oversize, après il faut l'assumer, mais ça se porte super facilement sur un costume ou sur une jupe fendue classique. Le manteau, donc courage si tu nous écoutes, la version cuir en all over, ou Balenciaga aussi, ou Proenza's Couleur qui en ont fait de très très beaux. Et puis une spéciale dédicace à nous deux pour le manteau en léopard. Alors là, mais on le veut chez Dior, chez Etro, et il est apporté avec tout en hommage au look des Rolling Stones, ou même plus simplement en version un petit peu mods. La veste et le blazer à carreaux, toujours ample, toujours très longue. On l'a vu chez Acne Studio, chez Stella McCartney, un petit peu partout. Le poncho en lainage. Alors moi, j'ai un problème, mais les ponchos, j'y arrive pas. Je trouve que... Je sais pas. Je n'y arrive pas. Donc là...
Quand on te prend pour... un Mexicain avec son chapeau.
Je sais pas, mais j'ai surtout de l'air qui passe sous les bras, ça tient pas chaud, c'est pas facile à vivre. Mm-hmm. Mais là, on essaye vraiment, vraiment très, très fort avec Chloé qui a fait une très belle collection, la Gabriella Hearst, mm-hmm. Kenzo aussi. La tunique, alors j'ai pensé à toi parce que vous avez fait, là on verra d'ailleurs sur le site du Marémoud, un super look avec un mec et voilà, un peu androgyne, la tunique mi-cuisse voire genou, sans manches. Le col V, jacquard, uni, façon grand-père, que l'on retrouve en layering. C'est pas mal, et on l'a vu chez...
Rappelle ce que c'est que le layering.
Le layering, c'est les superpositions de vêtements. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de superpositions, toujours. Hein. Et cette tunique ou façon pull de grand-père, on l'a vu chez PH5, chez Legacy, Bevza, des jeunes marques aussi. Qu'est-ce qu'on verra d'autre aussi? On verra la robe en maille ultra longue, à porter près du corps, mais pas moulante surtout. Et puis tout ce qui est en maille, la maille moelleuse XL, super souple, en all over, en top, en cardigan, en jupe longue, portée avec un pull à manches maxi. Et ça, on les retrouve chez Jacquemus, chez Jill Sander, chez Balmain, chez Kim Jones pour Fendi, chez Ferragamo, tout le monde, même Armani justement, ou Sportmax. Et un truc super important, le pull à manches, le pull ou la robe à manches maxi, mais vraiment des manches ultra ultra longues qu'on retrouve chez les mêmes marques que je viens de citer. Un autre détail super important et très très belle chez Raf Simons ou chez J.W. Anderson, c'est la manche ballon sur des pulls. Ouais, la manche ballon qu'on avait déjà vue, que Isabelle Marant...
Oui, qui avait fait une entrée avec Dior aussi. C'est bête, je viens de donner mon pull à manche ballon, mon gilet à pull ballon rouge à Emmaüs.
Ah ouais, mais non, faut aller chercher là. Non, c'est pas bien. Donc tu rachèteras un pull ou un cardigan à manche ballon. Mais Isabelle Marant qui en a fait de super beaux comme d'hab, c'est vraiment sa marque de fabrique. La manche mitaine, plus dans l'esprit grunge, mais là c'est plus outdoor ou grunge un peu technique, chez Marine Serre, qui vraiment elle est, le fait depuis presque le début. Le bodysuit ou le catsuit ou la combi juste au corps, Alors là aussi, si on n'a pas un corps de danseur, c'est un peu difficile, ou si on ne s'appelle pas Beyoncé en marine serre, c'est un peu difficile. Mais ça marche bien si tu le glisses justement sous un pull ou sous une robe. Coperni en a fait de beau, Nina Ricci aussi, même Prada. Donc vraiment, on va le retrouver. Sinon, quoi d'autre pour les classiques? On a la petite robe noire. Mais,
Toujours
et encore, mais là, elle est très courte. Elle est version années 2000, un peu chez Tom Ford. Elle est toujours provoque chez Message, quand même, chez Gabbana ou Valentino. Et son pendant, ou son opposé, la robe transparente.
Oui,
parce qu'il faut, en plein hiver, porter de la robe transparente. C'est Valentino qui le dit, c'est Givenchy ou Coperni. Tu parlais du retour des années folles, des années 20, les robes à franges. Ouais, ça fait quelques
saisons. Prospères, des années prospères et insouciantes.
Oui, mais là, on va aller plutôt vers des choses un peu plus classieuses, comme Hermès, par exemple, qui l'a réinterprété. Les looks des années, des époques iconiques, on retrouve aussi le retour des années 2000, mais version pulvérisée par Tom Ford, Vuitton, Blue Marine aussi. Quoi d'autre? La jupe plissée, plissée soleil, comme chez Prada ou Dior, déclinée dans toutes les matières.
Elle était là depuis un moment, non, cette jupe plissée?
Oui, elle est là depuis un moment, tout comme la chemise qui revient, éternel retour de la chemise, que tu peux porter très bien avec ses robes, avec ses jupes plissées, ou avec une tunique, justement, ou en surchemise. Dans toutes les matières, elle est surdimensionnée, elle a été vraiment... je dirais surjoué chez Proenza Schouler, chez Bevza, chez Gabriella Hearst aussi, que tu peux porter sur une jupe fendue.
Pour compléter le look, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme accessoire absolument indispensable?
La boute dorée, c'est sûr. non, mais moi j'y crois, moi j'adore.
Ah, c'est vrai? Et si on n'a pas de boucle dorée, alors comment on fait?
On choisit une botte maxi size qui remonte bien au-dessus du genou en cuir noir, parce que ça, c'est un éternel retour de saison. Là aussi, on essaye, c'est difficile, mais on nous l'impose. Alors, en cuir noir ou en cuir blanc ou en fausse fourrure, que l'on a vu chez Miu Miu aussi, pas mal. On peut... Chez Vuitton, ouais, chez Vuitton aussi, pas mal, en effet, et chez Chanel. Moi, j'aime beaucoup l'idée du foulard. J'adore les foulards à porter, soit en femme fatale, chic, chez Dior, soit un peu folk, comme femme de l'Est, un peu babouchka, chez Prine. Ou alors, et ça, j'adore, mais je suis pas sûre que ça se voit tout de suite, mais on y viendra, un peu à la version Jackie Kennedy, mais revue par Miu Miu. La cagoule, j'adore la cagoule. Je trouve ça super, super chic, et puis ça nous évite de porter un masque. Donc, c'est plutôt pas mal.
Bon, il faut que ça aille bien, il faut qu'on n'ait pas trop peur, qu'on ne soit pas inquiété par ces allures encagoulées, quoi.
Non, parce que tu as des jacquards très drôles, tu as des super couleurs, tu n'es pas obligé de porter ça un petit peu à la extrémiste de je ne sais quel groupe radical. Mais en parlant de ça, la pièce en cuir, pour jouer le côté un peu radical, un peu matrix, un peu activiste, le long manteau, le blazer, le blouson à capuche XL de Schiaparelli, par exemple, la robe trapèze en cuir de Simone Rocha.
Et... Mais il n'y a pas beaucoup d'imprimés, je vois pas... À part les carreaux des manteaux dont tu as parlé.
Ah si, quand même, il y en a qui se sont vraiment lâchés sur les imprimés. C'est Versace et Prada, mais Prada comme d'habitude, le papier peint intellectualisé, revisité, en all over, moi j'ai beaucoup aimé, Jill Sander aussi, Armani aussi a retravaillé d'anciens imprimés ou Dior, courrais-je, Dries Van Noten aussi, et trop bien sûr. Donc non, tu verras, il y a vraiment pléthore d'imprimés en all over, plutôt rétro-futuriste aussi. Et comme tu l'as dit, en matière de motifs, le carreau, mais alors le carreau losange, noir et blanc. Là aussi, c'est très improbable, même si c'est très joli à regarder chez Valentino ou Dior. Donc, voilà.
C'est une espèce de patchwork, en fait. On mixe les carreaux, losanges, du noir et du blanc et d'autres choses amusantes.
Oui, c'est ça. Mais c'est le côté aussi, le patchworking néo-nostalgique des années 70, limite clownesque aussi, qu'on a retrouvé. C'est des matières et des textures qui sont cousues ensemble et qui nous rappellent justement qu'il faut upcycler. Et que upcycler, c'est aussi rassembler, comme on l'a vu encore une fois chez Chloé, de superbes patchwork dont la composition des soieries est à 50% d'élevage organique. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on voit que vraiment il y a un investissement des marques pour aller vers tout ce qui est recyclé. Mais l'upcycling, c'est pas seulement du patchworking, c'est aussi des matières oui, réutilisées, mais des jerseys par exemple super chic comme on a vu chez Ferragamo, mais tout composé à partir de plastique provenant de bouteilles. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Issey Miyake aussi, qui a fait des collections hyper sobres à partir de coton et de polyester organique. Donc pas mal de d'éco-responsabilité chez les grandes marques.
Ah, c'est bien. Alors, quels sont les jeunes créateurs que tu recommanderais de suivre aujourd'hui? Parce que bon, on a un petit peu, on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Mais là, tu nous en as cité quelques-unes que j'aurais qui nous recitent.
Oui, il y a Coperni, il y a le nouveau créa chez Nina Ricci aussi qui est pas mal. Il y a Ottolinger, il y a cette marque. TB Magougou qui est pas mal du tout. Afrique. Il y a Kaité, Gaucher aussi que j'aime beaucoup et Daway.
Ça, c'est des marques effectivement qu'on ne connaissait pas du tout. Donc les créateurs sont très jeunes, ils ont bénéficié d'aide de grands groupes ou pas en général?
Ah non, pas forcément justement. Ils ont fait ça tout seuls. Et ce sont des marques qui luttent pour exister, mais qui y parviennent parce que justement ils ont plus de visibilité aujourd'hui et ils ne sont plus obligés par justement l'industrie de la mode de passer par des trucs super complexes pour se faire connaître.
Alors, pour finir là où on a commencé, l'on a dit que la mode est un éternel recommencement. Après cette Fashion Week, tu crois que tout va recommencer comme avant quand on faisait un peu n'importe quoi, qu'on n'avait pas la notion que notre vie pouvait s'arrêter au moins un an parce d'un virus?
Exactement, et que on consommait trop et qu'on mettait en danger tout un écosystème indispensable à notre survie. Donc non, il n'y a plus d'avant, moi je dirais. Il y a le revival des décennies iconiques, bien entendu, avec des pièces d'archives qui tourneront en boucle au fil des prochaines saisons parce qu'elles sont rassurantes et puis parce qu'on y puise l'inspiration qui fait écho au présent. Mais on essaye de le faire avec pertinence en s'adaptant à de plus jeunes générations qui sont beaucoup plus faciles, qui hybrident beaucoup plus facilement. Mais évidemment, la mutation est inéluctable et elle est entamée au travers de collections et de vestiaires mixtes, de pièces esthétiques, soit, mais plus pragmatiques, qui peuvent aussi se transformer selon les besoins, le contexte, qui sont modulables. Donc on dit qu'elles sont oniriques mais pratiques. Et j'aime bien cette phrase d'Oscar Wilde qui a été reprise dans la note d'intention de la collection Sport Max et qui n'a jamais été aussi d'actualité. Il dit, alors je l'ai tronqué, mais il dit « Rien n'est plus dangereux que d'être trop moderne. On est susceptible de vieillir assez soudainement. » Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça nous rappelle que la mode doit s'adapter aussi aujourd'hui à une féminité active plutôt que décorative, libre, innovante, sans manquer de nous surprendre bien sûr, mais toujours avec cohérence.
Mais ouais, de la cohérence. Et non, et oui, la cohérence, je vais y arriver. Mais oui, on a toujours besoin de cohérence hein, dans notre vie. Et tu parles de féminité, mais ça s'applique aussi à la mode, à la transformation, revue et corrigée en live par les followers Instagram qui interagissent sur les réseaux. Alors pour guider la main du créateur ou d'une marque qui aurait perdu sa feuille de route, donc ça c'est le nouveau monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on encore plus loin que le public et ceux qui vont porter l'événement sont totalement dans l'histoire de la marque.
Totalement dans le processus pratiquement de création. Donc voilà, on va tous se prendre pour des grandes marques et des grands créateurs. J'ai co-créé avec Courage. Allez, mon prochain manteau, Courage, si tu m'entends.
Bon, mais c'est génial. On se retrouve la semaine prochaine et tu nous raconteras d'autres aventures de tendance et de mode.
Ouais, on fait ça ensemble la semaine prochaine.
Ok, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut.
Ciao.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes,
à mettre un commentaire ou 5 étoiles,
à suivre Le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story,
à découvrir les autres épisodes déjà en ligne,
à parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.